Médiateur professionnel, une profession d'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations. Coaching, consulting et ingénierie relationnelle. Aider à se positionner, à identifier des choix, à prendre des décisions, à structurer des projets individuels et collectifs, à mieux communiquer ensemble, transmettre des connaissances et des compétences dans le champ des relations, la profession de médiateur ne pouvait qu'émerger. Que je vous dise, la médiation professionnelle est dans le champ de l'accompagnement personnel et interpersonnel la seule pratique où la rationalité est le référentiel. Non pas principal, mais le référentiel rationnel. C'est dans son creuset que j'ai initié les expressions processus structuré, ingénierie relationnelle et inimaginable discussion. Ce n'est pas pour rien si je vous dis que l'usage de la raison est la plus grande source de créativité. C'est parce que j'en ai fait l'expérience, je continue de le faire, et à en faire l'expérience à un grand nombre de personnes. Quant à l'approche voisine, le coaching, après des années d'incertitude dans son développement, il a une certaine prise dans notre société. L'ouvrage cinglant de Roger Paul-Droit, inspiré de celui de Michel Lacroix, n'a rien changé au développement des modes fantaisistes qui en font les recettes principales. Et il y a bien des raisons à cela. Dans le monde des idées, on trouve de tout. Et le plus invraisemblable, c'est qu'un grand nombre de gens s'en satisfont. Même les plus incohérentes de ces fantaisies ont leur méthode. De quoi égarer le sens critique. Mais la principale raison du succès du coaching, et d'ailleurs aussi de l'émergence de la profession de médiateur, est dans l'aspiration à réguler, sinon à pleinement maîtriser ses emportements et canaliser ses aspirations. Ainsi, je me donne comme objectif ici de vous offrir le référentiel spécifique de la profession de médiateur, de vous aider dans la clarification de la cohérence de notre nouvelle profession. Avec ces éléments, vous pourrez exercer la profession de médiateur dans toute son amplitude. C'est autant une affaire de compétences que de positionnement. Je vais vous en faire la démonstration. Mais cette démonstration nécessite quelques préalables. Vous-même. Compte tenu de ce que vous savez déjà faire, si vous êtes médiateur professionnel, vous pouvez vous dire que l'accompagnement individuel est dans l'ordre de vos compétences. Et si vous êtes coach, vous pouvez vous dire que vous pouvez probablement réaliser des missions de médiation. Puisque vous faites profession ou que vous envisagez de faire profession de l'accompagnement des autres, vous voudrez bien entendre tout cela au regard du sens de la vie. De fait, l'un ou l'autre, coach ou médiateur professionnel, vous êtes dans le champ de ce qui vous intéresse. Ce qui ne peut qu'être une source de plaisir dans la vie, plutôt que de subir une existence où vous vous sentiriez obligé de faire une activité qui ne vous plairait pas. Vous voici donc sur votre chemin, quitte à l'aménager à votre manière, histoire de faire de votre vie votre propre œuvre. Donc, bienvenue, bonjour à chacune et chacun. Si vous vous dites que l'accompagnement individuel n'est pas dans un challenge, ma proposition risque de ne pas vous convenir, parce que c'est un défi. Et la médiation professionnelle, a fortiori, relève aussi des défis. Elle s'inscrit dans un esprit d'une forme de compétition. C'est l'art de mettre la méthode à l'épreuve et d'exercer le talent de la rationalité. En poursuivant, vous pouvez donc être choqué. Or, mon objectif n'est pas là. Il est d'outiller des professionnels, pas de faire de la complaisance marketing. L'idée est de vous prédisposer ici à une posture d'accueil de tout ce qui peut faire la différence entre des pratiques, pour vous permettre de vous approprier l'originalité qui est à la clé. Alors, je peux être précis. Ce type d'état émotionnel, être choqué, concerne certaines personnes et pas d'autres. Pourquoi ? Eh bien, tout comme la provocation ne jaillit que chez les personnes provocables, Les personnes choquées ne sont que les personnes choquables. Si vous vous retrouvez choqué, c'est le moment de vous dire merci à vous-même. Merci de l'indicateur que vous trouvez dans votre aptitude à l'accueil, pardon, au rejet, sur une thématique qui vous intéresse. Vous identifiez une limite, et quand on identifie quelque chose, eh bien, c'est le moment d'un merci. Parce que, en effet, l'usage de la raison est un défi dans sa constance face à la perturbation émotionnelle. Je vais vous parler en termes actualisés des performances et des limites des travaux de René Descartes, le fondateur de la première méthode pour bien conduire sa pensée. Encore faut-il non seulement l'appliquer à soi-même, et être en capacité de l'appliquer à autrui. C'est vrai que c'est un défi. Je vais clarifier les conditions pour le relever. Pour cela, je partagerai la parole avec René Descartes qui est passé avant moi pour répondre à cette question. L'usage de la raison est-il fait pour tout le monde ? L'objectif de cette méthode appliquée en accompagnement individuel est le résultat. La liberté de décision et l'entente. Soit l'affirmation de soi et l'altérité. Notez cela dans un carré de réciprocité. La liberté, l'affirmation de soi, l'entente, l'altérité. Et ça se croise très bien. La liberté est à l'entente ce que l'affirmation de soi est à l'altérité. La liberté est à l'affirmation de soi ce que l'entente est à l'altérité. En approfondissant, vous pourrez trouver que la liberté des uns ne s'arrête pas à celle des autres, mais qu'elle s'étend au travers de celle des autres. Et que chacun de ces concepts nécessite un apprentissage de contenu par l'usage de la raison. Tout est là. Je pourrais penser avoir tout dit, mais j'ai bien constaté que ce n'est pas aussi simple. Tous les médiateurs professionnels le savent. Une fois que l'on a clarifié la terminologie en formation CAPEM, on en vient à clarifier ce qu'est une relation. Et une relation, c'est avant tout des gens, des personnes. C'est pourquoi la médiation professionnelle est une approche de la personne et des différents types de fonctionnement individuel et de leur interaction. C'est essentiel en termes d'altérité. L'enjeu d'une définition et de faire réfléchir. Il est essentiel de bien comprendre ce qu'est une personne, une relation, les interactions, ce qui les favorise et les bloque. Parfois, même l'acte de réfléchir est utile à bien définir. Je vais vous l'illustrer plus loin de manière forte. La caractéristique de la médiation professionnelle est dans cette rigueur de définition, cette précision sémantique, autant que dans la méthodologie. Ce n'est pas pour rien que vous y trouvez du modèle SIC partout, parce que c'est là que ça se passe, dans les structures et interactions en communication. Les sens reçoivent une information, le système nerveux central en fait le traitement, et il en sort une expression. Et dans tout cela, vous cherchez à quel moment vous avez vraiment choisi que ça se passe comme ça. Et vous ne trouvez pas. À réfléchir de cette manière, on peut se trouver perdu. Or, cette ignorance n'est en rien une entrave, même si c'est une réalité. C'est une donnée de l'existence, et c'est à partir de là que vous apprenez et que nous apprenons. De ce fait, pour l'accompagnement individuel et le développement personnel, l'usage de la rationalité est souvent critiqué. Parce qu'il est difficile d'être dans cette rigueur, dans ce doute, et de pouvoir s'en servir comme levier d'existence, de sens, de compréhension. Nous plaçons des urgences comme si le temps lui-même était impatient. À son époque déjà, Descartes avait pu constater que tout un chacun a le sentiment d'être suffisamment pourvu de raison, il appelait cela le bon sens, ce qui est équivoque aujourd'hui, qu'il n'en souhaite pas davantage. Je m'autorise à actualiser le propos de Descartes. Je préfère utiliser ici le terme de rationalité à cause de la polysémie du mot raison, qui signifie autant motivation, cause, intention que pertinence ou encore bon sens. Pascal lui-même s'y est pris les neurones dans le tapis. Alors, pour faire simple, Je vous invite à lire le discours de la méthode. L'auteur explique la conduite de sa pensée pour un projet personnel. Il a fait si fort qu'on en parle encore aujourd'hui. Il a lancé un usage méthodique de la rationalité dans l'humanité. Il a démystifié le doute et grâce à cette méthode, les sciences ont pu progresser. Des voies nouvelles de réflexion se sont ouvertes. Et pour ce qui nous intéresse, il a eu le sens de la formule. Je pense, donc je suis. Il a ouvert la voie à la reconnaissance de l'individualité, au déconfusionnement identitaire. Ce qui n'est pas gagné encore, puisque c'est encore la principale difficulté de notre époque en société. Bref, en poursuivant sa réflexion à propos de la raison, René Descartes observait que la méthode rationnelle n'est pas accessible à tout le monde. Et ça, je dirais, c'est tout à fait observable aujourd'hui encore. Mais exprimer cela, c'est lourd de sens. Quand ceux qui ne sont pas capables de rationalité la dénoncent pour sa froideur, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que la froideur dont il s'agit n'a pas pour cause la rationalité, mais une raison du cœur, c'est-à-dire une motivation ou une indifférence. Ils sont victimes d'une confusion des sentiments et des émotions. Cette froideur est un ressenti face à une expression d'un état émotionnel. Si toutefois c'est de l'indifférence, en tout cas, ce n'est pas de la rationalité. Car si une personne utilise la rationalité dans une situation, dans une relation, c'est pour comprendre. Et aucun acte rationalisé n'est posé sans mesure, sans distanciation. Tout acte qui suit l'usage de la raison est composé de cette altérité qui participe de la conscience humaine. En fait, la rationalité n'est ni froide ni chaude. Elle n'a pas de température ni de teinte. Elle n'est ni transparente ni obscure. Tout cela n'a rien à voir. La rationalité est juste un outil pour identifier, observer, désigner, nommer, distinguer, mais pas pour motiver, ni pour déclencher, ni pour attirer, ni repousser, ni pour juger. Tout cela, c'est l'émotion. Et c'est une erreur grossière que d'opposer l'émotion à la rationalité. Descartes n'avait pas fait l'erreur des promoteurs contemporains de l'intelligence émotionnelle qui s'y sont abondamment fourvoyés. Mais j'y reviendrai. Faisons ensemble le constat que ce n'est pas la même chose que d'avoir la raison assujettie aux émotions que les émotions maîtrisées par la raison. La raison est une instrumentation qui s'utilise en réflexion pour comprendre et structurer. Elle est bien plus qu'une méthode d'analyse. La rationalité est au service de la conscience et de la réflexion. Elle permet de développer la finesse de l'observation et de déployer l'imaginaire dans une perspective que cet imaginaire soit en phase avec la réalité. Grâce à la rationalité, on innove, on invente, on crée. On modernise, on déploie la qualité des relations humaines dans la globalité de la vie. On produit du sens dans une démarche éthique. Descartes aura cependant mis ce bémol. Est-ce de la lucidité? Il a exprimé que la raison n'est pas utile, ni même accessible, de manière universelle. C'est peut-être ce qui explique que la rationalité est si mal appropriée pour être enseignée dans le champ de ce qui fait notre fonctionnement, notre communication et nos modes relationnels. La responsabilité n'incombe pas à Descartes, qui a observé, je le rappelle, que chacun se pense suffisamment doté en raison qu'il n'en désire pas davantage. Resterait à faire évoluer cette perception trompeuse de soi. Ce n'est pas là l'œuvre du malin génie du doute hyperbolique, mais une de ces conclusions trompeuses qu'adopte notre intellect quand la rationalité ne vient pas distinguer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. J'ai appelé cela une illusion intellectuelle. Tout un chacun peut s'en satisfaire par complaisance envers soi-même, comme l'exprime si bien cette citation attribuée à Talleyrand. Quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. L'éducation, Cette manière de transmettre des attitudes et des comportements pour se conformer ou être acceptable en société n'est actuellement pas une pratique de la raison. Encore une fois, il s'agit d'un biais polysémique parce qu'on y parlera plutôt de raisonnable. Ainsi, l'éducation raisonnable, l'éducation au raisonnable, est faite par un dressage des états émotionnels, pas par des cours d'usage de la raison pour bien conduire sa pensée. C'est sans doute là que le manque existe. Et là que l'ingénierie relationnelle a toute sa place, actuellement, dans le monde des adultes, peut-être plus tard, dans le monde des enfants. Si j'osais quelques néologismes ici, je dirais que le médiateur professionnel pourrait faire œuvre de méthodonomie, soit la meilleure manière de structurer la conduite de la pensée grâce à la rationalité, autant que de débatologie, laquelle approche consisterait à étudier les différentes manières de cesser de se battre. Passons à la créativité sémantique. De fait, la rationalité est un outil au service du démêlage des contradictions, des confusions, des erreurs de perception. Il est clair que l'accumulation de connaissances et même de modes de raisonnement ne garantissent pas l'appropriation de la méthode rationnelle. Ce ne sont que des applications circonstancielles. Et il n'est pas faux de dire que tout le monde n'a pas besoin de savoir bien manier certains outils, certains instruments, qu'il s'agisse du matériel ou de l'intellectuel. Il suffit d'en être un utilisateur, même ponctuel, et parfois ça suffit. Ça peut suffire à la vie. Certains font un usage plus régulier de certains outils. Ce n'est pas tous les jours que j'utilise un marteau ou un tournevis. Il suffit que lorsque je m'en sers, je ne me tape pas sur les doigts ou je ne me fais pas un trou dans la main. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça peut être un entraînement. L'appétence peut en faciliter l'usage, mais ne constitue pas une exclusivité ni une garantie de pertinence et d'efficacité. Les jeux de société, comme le jeu de Go ou les échecs, n'en sont que des applications ludiques. Les utilisations sont tellement vastes, les contextes tellement variés, que sa ressource nécessite une grande adaptabilité. Quand en plus on y conjugue les connaissances, qu'on les croise entre elles, qu'on procède par analogie, l'inventivité ouvre des champs entiers à l'innovation, au progrès, grâce à l'usage que l'on peut faire ensuite de la méthode. Faute de méthode, combien d'idées géniales n'ont eu aucun futur? On a vu combien d'idées géniales, provenant du recoupement d'informations dans un contexte pour les utiliser dans un autre environnement. Ainsi, ce qui distingue le médiateur professionnel rigoureux de tout autre tiers, c'est son art de l'usage de la raison et de savoir aider les autres à en faire usage. Cet usage se fait au regard des informations que l'on traite. Qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est une production de notre système neuronal ? Faire la distinction entre ce que l'on a vécu et ce que l'on pense que l'on a vécu, ce qui est dit et ce qui est la réalité, ce n'est pas toujours simple. Il en va de la conduite maîtrisée de la pensée dans la perspective d'une décision, voire d'un projet. Pour clarifier un point de vue, prendre une décision, ne pas être dépendant de la production émotionnelle, qui fait autant de fumée, de flammes que de brouillard, c'est en appeler au doute. Mais quel doute ! Encore à notre époque, le fondateur de la méthode n'a pas été très clair pour définir ce qu'est le doute. Et cet instrument de la pensée est essentiel dans la méthodologie d'accompagnement du médiateur professionnel. J'ai consacré un temps de réflexion à ce propos, et en croisant le modèle des structures et interactions en communication avec les repères de pensée, j'ai identifié trois types de doutes. Le doute émotionnel, le doute expérientiel et le doute rationnel. Bien sûr, je reviendrai sur ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cela, voici une belle amorce d'appropriation. Le premier, je crains que, j'ai peur de, c'est le doute émotionnel. Le second, ai-je la compétence, c'est l'expérientiel, Le troisième, est-ce vraiment la cause? Est-ce vraiment les faits? C'est le rationnel. Je consacrerai une vidéo à cela plus tard, donc. Ici, je vais rester sur le cœur de la profession de médiateur. Savoir accompagner la réflexion des personnes dans une perspective relationnelle à soi ou à autrui en vue d'un positionnement intime ou d'un projet personnel ou professionnel. Au passage, je vous recommande néanmoins un ouvrage, au moins que la curiosité vous y pousse à le chercher sur Internet. Il s'intitule « Recherche de la vérité par les lumières naturelles » de René Descartes. Vous serez sans doute surpris de découvrir un Descartes, auteur d'une comédie sur l'usage de la raison. Ce qui est clair, c'est que certaines personnes n'ont que faire d'un usage rigoureux de la rationalité. Elles peuvent passer leur vie longuement avec un minimum de rationalité. Elles peuvent se satisfaire de croyances futiles, de certitudes improbables, de raisonnements fantaisistes. La rationalité n'est pas une nouvelle chapelle au regard des mystifications de la pensée dominée par les sentiments et l'intuition. Ainsi, la médiation professionnelle a autant à voir avec la médiation traditionnelle que la raison associée à la rationalité a à voir avec la raison du plus fort associée à la motivation. Vous ne serez pas étonné que certaines idées reçues de notre époque ne trouvent pas grâce ici. À vous de savoir ce que vous en ferez. Mais vous le savez maintenant. Ce que vous allez continuer de trouver ici relève de la méthode, c'est-à-dire de l'exercice d'une profession à part entière. Pas de fantaisie de chacun, avec ses hypothétiques expériences, son sens de l'énergie relationnelle et son feeling avec tel auteur ou telle idée. Mon but est de lever des travers pour bien spécifier ce qui fait l'originalité de la profession de médiateur. En effet, dans ce que je vais continuer à vous présenter, c'est de la profession dans toute sa surface d'intervention auprès des personnes et des organisations dont il est spécifiquement question. Ça peut être l'occasion pour vous d'en lâcher prise, afin de vous approprier ce qui caractérise la profession du XXIe siècle, ce que j'évoquais dans mon introduction. Avec quoi lâcher prise? Il y a de quoi faire. Faisons un point rapide sur les choses courantes en accompagnement individuel avec lesquelles le médiateur professionnel doit lâcher prise. La bienveillance, l'écoute active, l'humanisme et la maïeutique, la résilience, le feeling, le bon sens, la sincérité, la bonne foi. Mais halte là, lâcher prise ne signifie pas jeter à la poubelle, ça signifie considérer tout cela avec distance. Se le mettre à disposition, sans s'y accrocher, sans y voir une référence. Ce dont je vous parle est en dehors des sentiers battus. Je vous invite maintenant à mettre en place le contexte de la rationalité pour que la raison soit votre instrument de réflexion. Je ne vais pas vous dire ce que vous aimeriez entendre. Pas de marketing, pas d'invitation à la compassion, à la sympathie, ni à l'empathie. Pas de « en même temps », ni de « ça n'empêche pas ». Je m'adresse à des personnes que le doute n'effraie pas. Je parle de professionnels qui identifient la place du doute comme instrument de réflexion, sans pour autant en être affecté, déboussolé, perturbé ou déstabilisé. Ce n'est pas facile. Sortir des modèles où l'on ne prête pas d'intention, on ne catalogue pas les personnes dans une modélisation normative à coup de pourcentage, où l'improbable profil de personnalité doit correspondre à l'idée que l'on peut se faire de sa propre individualité. L'utilisation de l'effet Barnum est à la clé. Si vous ne savez pas ce que c'est, l'effet Barnum, eh bien, c'est une manière de poser des définitions standards qui produit des adhésions par un phénomène connu aussi, celui de l'approbation multiple. Vous savez, le fameux Yes-Set. J'en ai fait une vidéo spécifique sur la manipulation. Vous pouvez la trouver sur mediateur.tv. Je vous propose là un moment de rupture avec les modèles de la psychosociologie. Dans le développement personnel, de nombreuses idées fausses, partiellement fausses et complaisamment inexactes coexistent. La galerie est si fournie qu'on pourra y consacrer trop de temps. La morphopsycho, la pyramide de Maslow, la courbe de Kubler-Ross, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, le triangle de Cartman, l'intelligence émotionnelle, l'hémisphéricité cérébrale, l'énéagramme, la respiration holotropique, la kinésiologie, l'astrologie ou encore la numérologie. Et je vous passe toutes ces approches avec les accords Toltec ne sont pas les pires, pas plus que la CNV et l'écoute active. Oui, certes, il peut y avoir des aspects de gentillesse, des fonds de bonté dans tout cela, mais ça ne fait pas la rationalité. Et c'est exclusivement de rationalité, c'est-à-dire de professionnalisme, dont je veux vous parler ici. Si je prends le temps d'écarter toutes ces mystifications après vous avoir parlé de raison, c'est parce qu'elles contribuent à détourner la réflexion de l'usage même de la raison. De plus, souvent, pour étayer ces discours, ils sont nombreux à jouer du vocabulaire des neurosciences et de procéder à des jongleries sémantiques avec une phraséologie de physique quantique. Bon, les idées fausses peuvent être des béquilles dans la pensée. Imaginez, vous êtes dans un torrent. Vous y avez chuté lors d'une balade. Soudain, il y a eu une branche qui s'est présentée à vous, tendue vers vous. Elle est rattachée au sol, sur la rive. Mais elle a tout de la branche morte. Et pourtant, vous vous y accrochez. Et vous savez, c'est bon. Vous arrivez sur la rive. Alors oui, ce n'est pas parce qu'une branche est morte qu'elle ne va pas vous permettre de vous sauver la vie. Ce n'est pas parce que l'idée est infondée qu'elle ne va pas vous permettre de vous rattraper comme à une branche. Ce n'est pas parce que, cependant, cette branche vous a permis de vous sauver la vie qu'elle vaut plus que cet usage. Elle pourra peut-être sauver d'autres vies en plus. Et alors ? Il vous faut passer à autre chose. Sinon, vous allez attribuer à cette branche des qualités qu'elle n'a pas. Peut-être aussi au sol dans lequel elle pousse, dans son environnement, etc. Je n'ai jamais nié l'effet magique des pensées absurdes, l'effet magique des illusions intellectuelles. Il faut encore qu'elles restent momentanées. Et le momentané ne saurait durer longtemps. C'est comme de donner une autorisation à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose sur lequel il bloquait, et après l'autorisation, ben c'est fini. Pas de lien de dépendance. Dans l'accompagnement individuel ou de groupe, il faut savoir tout cela. Mais pas confondre son rôle. La pédagogie et la rationalité sont des repères constants en ingénierie relationnelle. La rationalité empêche de considérer que la mystification ne peut pas aider quelqu'un. Mais l'éthique ne saurait retenir ni présenter le procédé comme fondé. Pendant le temps de la prière, par exemple, le soldat ne tue personne. Toutefois, quand il se relève, la prière ne lui a manifestement pas appris ce qu'est l'altérité, la reconnaissance de l'autre, pas plus que la qualité relationnelle. Ainsi, si la rationalité constate des effets positifs, parfois durables, de certains procédés et certaines méthodes, le constat est fait que ce n'est pas universel et c'est ce qui est également recherché pour pérenniser la transmissibilité. Apprenez par exemple à ne pas donner prise aux élucubrations de notre époque. Le langage scientifique est même utilisé pour en dénoncer les bien fondés. Les pseudosciences font classe jusque dans le monde universitaire. On y trouve toutes sortes de théories justifiées par l'amateurisme complaisant d'intellectuels en quête de sens. Une théorie a défrayé la chronique pédagogique dans la fin des années 1970, et est arrivée jusqu'aux années 2000-2010, et même encore. Les hémisphères cérébraux auraient eu des systèmes de traitement des informations spécifiques. L'observation scientifique aurait prouvé cela. Enregistrement vidéo à l'appui. Et c'était faux. Et pourtant, un prix Nobel avait été décerné pour cela. L'une des élucubrations les plus persistantes depuis la fin du XXe siècle passe par l'intelligence émotionnelle. Pour faire direct, le concept d'intelligence émotionnelle résulte d'un amalgame. Leurs auteurs eux-mêmes s'y fourvoyaient. Mais ça n'empêche pas les fans d'y voir des arguments d'autant plus pertinents. Dans leur quête à définir ce qu'est l'intelligence et dans la mouvance de la contestation de l'usage de la rationalité, Mayer et Solovey, les auteurs du concept d'intelligence émotionnelle, ont énoncé qu'il s'agit de l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Autrement dit, cette intelligence émotionnelle doit tout à l'usage de la raison. Le terme « habileté » nécessite une attention soutenue par une expérience et une méthode, et l'expression nécessite l'usage d'un vocabulaire précis et ordonné. Je vous invite à découvrir le travail réalisé par Michel Lacroix, publié dans son ouvrage « Le développement personnel » qui a inspiré un roman à Roger-Paul Droit, « Votre vie sera parfaite ». Ce n'est pas facile de reléguer des habitudes de pensée, surtout si elles nous permettent de réaliser des missions d'une manière aussi certaine que les humains d'hier ont vécu sur une planète qu'ils croyaient plate en attribuant des pouvoirs à des êtres imaginaires tout en lançant des objets en l'air sans connaître les lois de l'attraction terrestre. Tout pouvait bien leur donner raison. Alors, je vous invite à user de méthodes avec l'ingénierie relationnelle, avec la médiation professionnelle. Une nouvelle page s'ouvre à vous.